Nous aussi dans vos jardins secrets.
Je vis dans une photo de Douaneau et dans les décors de Trôneur.
Pour participer à l'émission, laissez-nous un message à l'adresse suivante. unjourtoutneuf@radiofrance.com ou sur le site franceinter.fr.
5h-6h.
Un jour tout neuf.
Du lundi au vendredi sur France Inter. France Inter, la différence.
Et l'après-midi tout neuf sur France Inter, c'est avec Daniel Mermel. Ah bah si j'y suis, bip, ça commence comme ça.
Bonjour, je m'appelle Audra, j'ai 32 ans, je vous appelle de Bretagne. Je viens d'écouter votre émission aujourd'hui au sujet des manifestations d'Espagne et je suis remplie d'émotions et vous m'avez donné des frissons. C'était très beau de nous faire partager, la lutte des peuples et qu'on y arrive nous aussi. À bientôt.
Bonjour Daniel, je viens d'écouter ton émission à Madrid, j'en ai encore le frisson, je veux dire merci. Merci, c'était Joël.
Bonjour tout le monde, je suis Edouard Martin, la CDT, nous sommes actuellement en marche vers Paris, c'est la marche de l'acier, la marche des sidérurgistes pour défendre l'usine de Florange, défendre la vallée de la Fenche. On arrivera à Paris le 6 avril vers 17h. Et à l'issue de notre marche, à 19h, il y a un concert gratuit qui sera offert à tous ceux qui viendront nous soutenir, avec la présence de Zebda et de Bernard Lavilliers. Donc tous ceux qui croient en nous, tous ceux qui croient en la sidérurgie, tous ceux qui veulent défendre l'industrie française, sont les bienvenus, sont invités à venir participer à un concert de l'amitié, à un concert du soutien à l'industrie française. Merci bien.
Oui, bonjour, c'est Patrick de Lille, de la CGT Éducation. Les sans-papiers du comité de sans-papiers 59 sont en train d'occuper le local de l'UMP rue Solferino à Lille. Nous sommes en soutien devant le local, les sans-papiers sont à l'intérieur. Et puis, comme vous pouvez l'entendre, les slogans vont bon train et évidemment, on milite et on est là pour la régularisation sans condition de tous les sans-papiers. Ce qui serait un beau pied de nez au délire raciste et fasciste dont souffre la France et notamment depuis quelques jours. Au revoir.
Hey les journalistes, vous faites quoi là? Sarko président à Besançon et pas une info là-dessus. Bizarre, hein? Ah oui, d'accord, ouais. Il a fait à peine 3000 personnes, le président. Alors que Mélenchon, fin janvier, a fait 4500. Ah, ceci explique cela. Allez, on lâche rien.
Bonjour, c'est à nouveau Patrick de Lille, je rappelle, parce que les CRS sont intervenus avec une bonne dose de force physique. Ils ont porté des coups au secrétaire général de l'Union départementale CGT qui était présent par solidarité avec les sans-papiers. Donc là, on bloque la rue Solferino avec un cordon de CRS et ils sont en train d'évacuer les sans-papiers un à un. Faut savoir qu'il y a une femme enceinte chez les sans-papiers pour laquelle on est un peu inquiet là. Donc voilà. Salut et résistance.
La camarade Lise London, ancienne des brigades internationales, déportée, victime des purges staliniennes, est décédée. Elle n'a pu entendre la déclaration de Madame Parizeau ce dimanche. Pour la présidente du MEDEF, Jean-Luc Mélenchon serait l'héritier d'une forme de terreur. Panique chez les Koblenzards du XXIe siècle? Évasion fiscale, délocalisation des productions? S'inquiéterait-il d'être rattrapé? Régis, de Nîmes.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, surtout ce message qui annonce le décès de Lise London et qui lui rend hommage, d'autant plus touchant que nous sommes à Madrid en reportage. Et Lise London, nous l'avions rencontrée en 1996 à Albacete. Et pourquoi? Parce que c'était un hommage aux brigades internationales, les vieux brigadistes de 1936 s'étaient retrouvés à Albacete et on avait pris avec eux le train jusqu'à Barcelone et c'était une occasion de rencontrer cette femme hors du commun qui était Lise London. On lui rendra hommage demain dans là-bas si j'y suis. D'autant plus touchant que nous revenons d'une ville d'Andalousie qui s'appelle Palma del Rio dans la province de Cordoba où on retrouve vraiment des histoires comme au temps de la guerre d'Espagne, comme au temps de
Tierra y Libertad, la terre et la liberté. Vous savez bien sûr comment l'Espagne est en train de s'enfoncer dans le chômage, dans la crise, dans l'austérité, avec des expulsions, le chômage des jeunes, etc., les coupes dans les budgets sociaux, les réductions de budgets concernant les retraites, l'éducation, etc. Si bien que c'est un marasme social contre lequel certains essayent de se battre, les indignés, on a vu des manifs de vendredi, des syndicats qui se réveillent, mais il y a aussi d'autres actions qui se mettent en place, et notamment à côté de Palma del Río, des paysans qui occupent des terres, qui sont des terres, non pas des terres privées, non pas des terres qui appartiennent à des grands propriétaires, mais des terres publiques qui appartiennent au gouvernement d'Andalousie. Et ce gouvernement qui a besoin de fonds vend ces terres, mais à qui peut-il les vendre? Eh bien, à des banques, à des fonds spéculatifs. C'est du moins ce qu'estime le SOC. Le SOC est un vieux syndicat d'ouvriers agricoles qui s'est mobilisé et qui, avec quelques ouvriers agricoles, quelques paysans, s'est mobilisé pour occuper une ferme, une finca et des terres autour, avec pour projet eh bien, d'occuper ces terres, de les cultiver et de permettre peut-être à 30 ou 40 familles de vivre du travail de la terre, de l'usufruit de la terre. Vous voyez, c'est les vieux thèmes de la terre, de l'usufruit, de la propriété privée qui reviennent dans ce coin d'Andalousie, un coin que vous connaissez déjà si vous êtes des fidèles de la base. J'y suis parce que c'est à côté de Marina Leda. Vous vous souvenez, Marina Leda, cette petite ville de 3000 habitants où depuis une vingtaine d'années, les habitants avec le maire Juan Manuel Sánchez Gordillo ont réussi à créer des coopératives agricoles, coopératives de production, et ça marche, c'est un des rares endroits en Andalousie où il n'y a pas de chômage. Plus de 30% des actifs sont au chômage en Andalousie, sauf dans ce petit endroit de Marina Leda, grâce à cette gestion extraordinaire. Et donc, cette occupation de terre de Palma del Río, de la finca de Somonte, risque d'être une extension de la réussite de Marina Leda. Voilà, ça on vous en parlera dans les reportages à venir. Aujourd'hui, on va retrouver Bernard Friot. Bernard Friot, on l'avait rencontré au moment de la bagarre pour les retraites. Il avait publié un bouquin, L'enjeu des retraites, qui a fait grand bruit à l'époque. Bernard Friot était sociologue. Il anime l'Institut européen du salariat. Il anime aussi l'association d'éducation populaire Réseau Salariat. Sa spécialité, sa recherche, c'est le salariat. C'est le salaire. Alors, beaucoup d'entre nous touchent un salaire quand même, encore, mais on ne s'interroge pas tellement sur le sens du salaire, sur les cotisations, sur le salaire brut, le salaire net, le salaire total, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, on touche sa paye et puis voilà. Eh bien, Bernard Friot réfléchit beaucoup là-dessus et propose des réformes fondamentales sur le salaire, sur le salariat, sur la cotisation et sur la qualification. C'est donc lui qu'on va retrouver pour cette heure de là-bas, si j'y suis, l'enjeu des salaires. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
On parle plus d'Eva Joly parce qu'elle est tombée dans l'escalier plutôt que de son programme durant toute sa campagne. C'est dingue quand même.
Il avait le cœur à gauche. Il avait le cœur bien à gauche. Il avait le cœur sur la main aussi et il nous a quitté. Il s'appelait Egon. Je crois que ce gars-là, il avait tout compris. Il n'avait pas fait de longues études, mais il avait tout compris. Et il tenait une friterie sur la route de Buisson à Saint-Georges-la-Pouge. Les routiers qui étaient un petit peu sensibles ou juste ça, un petit peu sensibles à ses discours. S'est arrêté bien volontiers. Voilà. Maintenant, de toute façon, il y avait l'autoroute, il ne voyait plus personne. Il a été oublié et maintenant, il n'est plus de ce monde. Voilà, je voulais... C'était un fidèle auditeur à ton émission, Daniel. Voilà. Bonne continuation. Au revoir.
Bonjour, Daniel. C'est Hervé de Maastricht. c'est dommage, j'ai loupé ton émission d'hier sur l'euthanasie. Là, pour une fois, je pense que j'aurais été d'accord avec toi. Tu as fait, entre guillemets, la promotion de l'euthanasie. Juste un point, il ne faut pas se méprendre. Tu as sans doute mentionné l'euthanasie aux Pays-Bas. Je connais bien l'affaire puisque vivant moi-même aux Pays-Bas, l'euthanasie aux Pays-Bas, c'est une question d'argent. C'est-à-dire que pourquoi payer 15 jours, 3 semaines d'hôpital alors que ben, le père ou le grand-père irrémédiablement doit mourir. Donc débranchons-le au plus vite, ça coûtera moins cher. Mais néanmoins, c'est vrai que ça réduit des souffrances. Mais il faut bien appréhender toutes les dimensions de l'euthanasie là où il est pratiqué actuellement. Merci Daniel pour cette émission que j'ai loupée, malheureusement. Au revoir.
Le collectif pour un audit citoyen de la dette de Paris 20e organise une réunion publique mardi 3 à l'école du 103 avenue Gambetta, métro Gambetta, avec un intervenant du CADTM.
Bonjour Daniel, le prochain rendez-vous du Café Repère de Saint-Péret en Ardèche aura lieu ce soir, lundi 2 avril, à partir de 20h au bar L'Argonaute, place de la Mairie. Pour cette soirée, nous vous proposons un débat sur les élections présidentielles. On essaiera de savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire en ce jour, aller à la pêche ou aller voter. Et si c'est voter, aller voter pour qui? Voilà, j'espère que ça sera animé, vous viendrez nombreux. On compte sur vous, c'était Cyril d'Ardèche. Ciao, ciao.
Bonjour à tout le monde. Oui, je suis arabe. Oui, je suis de culture musulmane. Oui, je suis athée. Oui, je vote en France. Oui, j'en ai ras-le-bol de ce discours sur les musulmans en pleine période électorale. Merci.
C'était oppressant d'avoir cette main si près des yeux. Il fallait la considérer, qu'on le voulût ou non, l'étudier avec tous ses défauts et ses particularités humaines, comme si on la voyait à travers une loupe. Non, elle n'avait absolument rien d'aristocratique, cette main d'écolière, ramassée, avec ses ongles coupés tant bien que mal. La bouche de Hans Gerstorp se plissa, mais ses yeux restèrent suspendus à la main de Madame Chaucha, et un vague demi-souvenir lui traversa l'esprit de ce que le docteur Krokowski avait dit des résistances bourgeoises qui s'opposaient à l'amour. Le bras était plus beau, ce bras, mollement replié derrière la tête, et qui était à peine vêtu, car l'étoffe de la manche était plus mince que celle de la blouse. C'était la gaze la plus légère, de sorte que le bras n'en était que radieusement auréolé et qu'il eût probablement été moins gracieux sans ce voile. Il était à la fois délicat et plein, et frais, se disait-on. En ce qui le concernait, il ne pouvait être évidemment question d'aucune espèce de résistance bourgeoise. Thomas Mann, La montagne magique.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Basse et j'y suis avec Bernard Friot, l'enjeu des retraites. Flight number 2,
arriving from New York. Bon, encore une bonne nouvelle aujourd'hui, chers amis auditeurs de la Basse et j'y suis. La révolution approche grâce à notre ami aujourd'hui, Bernard Friot, qui publie l'enjeu du salaire. Vous vous souvenez qu'on avait reçu Bernard Friot sur la question des retraites, l'enjeu des retraites. Et là, c'est plus général. Ça concerne les salaires. Bernard Friot, il est sociologue, il anime l'Institut européen du salariat et il anime aussi une association d'éducation populaire qui s'appelle Réseau Salariat. Bernard Friot a fait des quantités de débats et de conférences sur les retraites et avec ce nouveau bouquin qui sort ces jours-ci à la dispute, il va reprendre son bâton de pèlerin pour nous expliquer comment on peut faire la révolution par le salaire et par le salariat. Je voudrais savoir quand est-ce que c'est apparu le salaire, l'idée d'échanger entre ma force de travail manuelle, intellectuelle, mon talent, ma qualification, mes responsabilités, etc., et ce que je vais percevoir en échange de tout ça.
Ça, c'est une idée, c'est une pratique récente. C'est une pratique qui est liée au capitalisme, qui lie le salaire, enfin l'accès aux ressources, à une mesure abstraite du travail à travers le temps de travail. Donc là, c'est tout à fait récent, c'est 18e siècle, on va dire 18e, 19e siècle. Mais dans l'énumération que vous avez faite, je note que vous avez mis en même temps mes capacités à produire des biens et services utiles et puis ma force de travail. Non, ce sont deux choses très différentes. Moi, comme fonctionnaire retraité, je n'ai jamais eu de force de travail. Jamais. J'ai eu un grade...
Vous avez une force de travail intellectuelle.
Mais non, la force de travail, c'est un outil de la violence sociale capitaliste. C'est le fait de réduire des personnes, parce qu'il y a propriété lucrative, donc appropriation par une minorité. Cette appropriation fait que, bien ma foi, nous ne sommes pas propriétaires de l'outil de travail et les salariés du privé doivent objectiver une partie d'eux-mêmes dans une marchandise, la force de travail, qu'ils portent sur un marché... Et là, ils deviennent des demandeurs d'emploi. Alors que c'est eux qui offrent justement la capacité à faire des biens utiles, c'est eux qui vont produire la valeur économique aussi. Eh bien, ils sont réduits à une situation de demandeur, avec le chantage à l'emploi qui est possible, etc. Donc, la force de travail, c'est une institution capitaliste dont il faut se débarrasser si nous voulons nous libérer et libérer le travail.
Bernard Friot, prenons un exemple. Je suis ouvrier menuisier dans une entreprise qui fabrique des meubles. Ok, j'ai été recruté parce que j'ai une certaine qualification, je suis un bon menuisier, je connais le travail, etc. Il y a à l'entrée de l'atelier un tas de planches, et à l'autre bout de l'atelier, il y aura des tables, des chaises et des buffets. C'est moi qui aurais fabriqué ça, moi et mes collègues ouvriers. Alors, je vais être payé pour quoi là-dedans, à la fin du mois ?
Je suis payé pour le prix de ma force de travail. Pas du tout pour ce que j'ai produit, puisque ce que j'ai produit, c'est la propriété de celui à qui j'ai vendu l'usage de ma force de travail pendant 8 heures par jour ou 7 heures par jour. Je suis payé pour le prix de la force de travail, c'est-à-dire que le salaire évalue ce dont j'ai besoin pour être demain à nouveau menuisier, compétent, en bonne santé, sur mon poste de travail. Et ce dont j'ai eu besoin... pour me former comme menuisier, avoir un diplôme, etc., etc. Le salaire, c'est le prix d'une marchandise, la force de travail, et comme toute marchandise, ça s'évalue par le temps nécessaire à sa production, à sa reproduction. Les biens que je consomme, alimentaires, le logement que je paye, les biens culturels dont j'ai besoin selon le cas, tout cela est évalué au temps, c'est la dictature du temps. Aucune autre société que le capitalisme n'évalue par le temps de production la valeur des biens. Et la violence sociale qu'il y a toujours dans la valeur économique, qui fait qu'une minorité ponctionne une partie de la valeur créée par la majorité, je rappelle que dans une société comme la nôtre, c'est 35%, ça n'est pas rien. Eh bien, cette violence sociale repose sur le fait qu'on mesure la valeur des biens par leur temps de production. Et que nous avons un marché du travail sur lequel des marchandises, les forces de travail, se présentent comme demandeuses d'emploi, sont payées pour le temps de travail nécessaire à leur production et reproduction.
Merci de bien vouloir remplir ce formulaire à l'aide d'un stylo. Faites un effort et écrivez lisiblement en caractère d'imprimerie et tout en majuscules.
Identité. Nom, prénom, date de naissance.
Où ça ?
Téléphone, portable, email, marié, célibataire, vieux, beau, quoi ? Casier judiciaire, champ obligatoire.
Diplôme, niveau. Rayez les mentions inutiles. CAP, BEP, inutile. Bac, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 ou plus. Recommandé. Diplôme 1, intitulé. Diplôme 2, intitulé ou plus. Recommandé. Expérience. Vie sexuelle, acceptée. Niveau débutant, 1 à 2 ans, 1 à 3 ans. Une fois par semaine. Description. Résumé en 220 caractères maximum. Profil. Sensible et mélancolique. Petite frappe, sans scrupule. Grand, sec et fourbe.
Type de contrat.
Temps partiel, temps plein, alternance. Placard, bonne planque, tourisme.
Va, fond de couloir.
Disponibilité immédiate. Corps et âme. Dans un mois, dans deux mois. Non mais vous croyez quoi? L'une des situations suivantes vous concerne-t-elle? Avez-vous supporté les bleus pendant le mondial ?
sinon pourquoi? Important, si vous avez répondu oui, oui à l'un des points ci-dessus, ayez l'amabilité de le signaler à l'agent d'accueil situé à l'entrée de l'usine. Sinon, passez à la rubrique suivante. Pièce jointe, lettre de motivation, mensuration, CV, photo de mariage, format accepté, Word, RTF, PDF. Appuyez sur envoyer, appuyez sur envoyer, ça va marcher. Appuyez sur envoyer, vous perdez votre sang-froid. Je plaisante, ça va marcher. Si vous appuyez sur envoyer, une erreur grave est survenue dans votre système d'exploitation. On ne plaisante plus. Une erreur grave est survenue dans votre système d'exploitation. Daté, signé, terminé. Ah bah non.
Alors, prenons maintenant ma fiche de paye de menuisier. Supposons que je perçoive un salaire, un bon salaire, on va dire, de 2000 euros net. Voilà ce que je vais percevoir. Ouais. Il y a, j'ai payé au préalable la part salariale.
Alors, les 2000 euros de salaire net vont générer, par ailleurs, en versement aux caisses de sécurité sociale, 1600 euros, on va dire un chiffre rond, de cotisations sociales.
C'est-à-dire que j'ai 2000 euros net.
Dans ma poche, oui.
Dans ma poche, voilà. Et
le salaire total, est de
3600 euros. Alors, interrogeons-nous sur ces 1600 euros qui sont partagés en charge, vous allez hurler parce que quand je dis charge, salariale et patronale.
Alors, la cotisation dite salariale, ça va être le tiers à peu près des cotisations. Mmh. Et la cotisation dite patronale ou employeur, ça va être les deux tiers. Donc, on a sur les 1600 euros, on va avoir 550 euros de cotisation salariée et 1100 et quelques euros de cotisation employeur.
Alors, ce qui vous intéresse dans votre recherche et ce qui parcourt tout ce bouquin sur l'enjeu des salaires, c'est que c'est cette cotisation-là qui vous semble un levier d'émancipation. C'est quand même costaud. Ah oui. Levier d'émancipation. Alors dites-nous comment, dans quelle mesure.
Ah oui, oui, merci de me faire dire ça parce que nous avons des points de vue tellement misérabilistes sur les choses qu'il faut absolument montrer que nous, au contraire, nous disposons de tremplins pour sortir du capitalisme. Ce n'est pas une émancipation marginale. Hein. Il s'agit de sortir du capitalisme.
Par la cotisation. Alors expliquez-nous comment.
Eh bien, nous avons déjà 45% du salaire, prenons cet exemple, hein, 1600 sur 3600, hein, 1600 euros de cotisation sur 3600 euros de salaire total, nous avons déjà 45% du salaire qui sont socialisés. Le salaire a déjà 45% de son contenu qui va à des caisses qui garantissent la sûreté de ma pension ou de mes soins, quels que soient les aléas de l'entreprise dans lesquelles je suis, je ne suis pas, je ne suis plus. Eh bien, ma foi, achevons le travail. Jusqu'à 100%. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas 100% du salaire qui relèverait de la cotisation, qui irait à des caisses versant un salaire à vie, et non plus aléatoire en fonction de la bonne ou mauvaise santé de l'entreprise à laquelle, en fonction de la bonne ou mauvaise volonté de l'employeur, en fonction du marché du travail. Libérons-nous du marché du travail, dont j'ai montré le caractère essentiel dans la logique de ponction d'une partie de la valeur que nous produisons. Ne soyons plus des forces de travail, soyons des qualifiés qui sommes reconnus comme produisants de la valeur économique et qui ont un salaire à vie. On peut commencer, moi j'ai repris la proposition CGT d'une hiérarchie de 1 à 4 des qualifications. Eh bien on commence, tout le monde à 18 ans, tout le monde a le premier niveau de qualification et 1500 euros net par mois.
Mon salaire net, un salaire net, ouais, disons de 2000 euros, avec, on disait tout à l'heure,
1600 euros de cotisation.
1600 euros de cotisation. Ça, c'est la situation
actuelle.
Avec ces 1600 euros qui servent à tout ce que vous avez décrit, pension maladie,
santé, famille, etc. Emploi.
Très bien. Bon, ça, c'est un progrès.
Incontestable et énorme, sous-estimé.
Mais énorme, sous-estimé.
Enfin, sous-estimé dans ses potentialités émancipatrices, c'est ça le point.
Voilà. Alors, dans votre projet, proposition, on passe de 1600 à combien sur les 2000? Vous dites 100%, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a 3600 euros de cotisation. Et que ces cotisations...
Je ne touche plus de salaire, moi, dans cette histoire-là.
Touche un salaire qui vient d'une caisse. De même que je touche une pension qui vient d'une caisse. De même que je touche de la couverture santé qui vient d'une caisse. C'est la condition pour que j'ai droit à un salaire à vie. Et d'autre part, du coup, je ne suis plus là à quémander à un offreur d'emploi qu'ils veulent bien reconnaître que je peux produire de la valeur économique. Je ne suis plus le domestique d'un maître. Je suis posé comme producteur de la valeur, ayant une qualification à vie et pouvant progresser dans une carrière salariale. Tout le monde démarre à 1500 euros, quelle que soit sa certification scolaire. Ce n'est pas lié au diplôme, cette affaire. Tout le monde démarre à 1500 euros. Et ensuite, dans une hiérarchie de 1 à 4, vous voyez, on peut aller jusqu'à 6000 euros. 6000 euros net comme salaire maximal. Je précise, net d'impôts, puisque dans la proposition de tout convertir en cotisation, il n'y a plus besoin d'impôts pour payer les fonctionnaires, puisque la cotisation paye les fonctionnaires, caisse générale.
Mais Bernard, je commence à 1500 euros, j'ai 18 ans, je commence à 1500 euros, mais en vertu de quoi je perçois ces 1500 euros? En vertu de quel effort, quelle qualification, quelle production? Comme ça, on dit bonjour, voilà 1500 euros.
En vertu de ma majorité économique, tout à fait. De même qu'on dit bonjour, vous avez 18 ans, vous avez le droit de voter. C'est exactement la même chose. Nous sommes là dans une proposition qui, encore une fois, n'est que le prolongement de l'existence. S'il n'y avait pas déjà 45% du salaire qui était socialisé, je ne pourrais pas dire cela. C'est l'expérience très positive de la pension et de la santé qui incite à pousser plus loin cette institution déjà là. Mais qui est du même ordre que le suffrage universel. Le suffrage universel, qu'est-ce qu'on fait? On postule que tout le monde est capable de participer à la délibération politique. Ça a eu des cris d'orfraie au XVIIIe siècle, même encore au XIXe. Comment vous confiez des perles aux pourceaux et ces manants sont incapables? Et de fait, on pouvait objectivement dire qu'ils étaient incapables. Mais je ne crois pas au peuple vertueux, mais je crois en revanche aux institutions qui génèrent les capacités qu'elles postulent. En posant que tout le monde était capable de participer à la délibération politique, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des partis politiques, on a fait l'éducation civique, on a créé des médias, on a créé des tas de choses, et on a créé le droit de grève, le droit de pétition, etc., le droit de manifestation, bref, toutes choses qui ont permis effectivement de rendre effectif cette qualification à décider politiquement. Eh bien, on va faire pareil pour l'économie.
C'est assez compliqué quand même, hein?
Oui.
C'est assez compliqué.
Ce qui n'est pas compliqué, c'est de savoir que le travail, c'est un outil de soumission, de toute manière. On peut dire que les citoyens naissent libres, égaux, et ta-ta-ta-ta-ta-ta, mais le travailleur ou l'étudiant, ou machin, il est soumis.
Volem rien foutre al pays.
Il est soumis, oui.
Et donc, oui. Si on lui enlève le travail, on lui enlève aussi cette soumission, quelque part.
Un film de Pierre Carle.
Oui, mais sauf que, d'un autre côté, on a tous besoin, de façon vitale, d'avoir une activité.
Ben oui.
On n'est pas là à être comme des légumes, non, on est là quand même.
Oui, comment... employer deux mots qui veulent dire deux choses différentes. Travail et activité. C'est compliqué de définir les notions.
Ouais. Voilà, on est en train de pinailler sur des histoires de est-ce qu'on fait, travail, on choisit de travailler, d'avoir des activités, est-ce que les activités sont rentables, pas rentables, etc. Alors qu'on est dans une putain de société où finalement, si tu calcules qu'est-ce que ça coûte le RMI sur 100 ans à la société française, ça coûte même pas le cinquième du trou qu'il y a eu du Crédit Lyonnais il y a quelques années et qu'on est tous en train de rembourser et qui a engraissé des pauvres.
C'est vrai aussi.
Donc le débat à ce niveau-là, pour moi, il est ridicule. C'est du débat travail, famille, patrie, c'est du débat. Le travail, tu travailles pas, t'es un feignant, t'es une merde, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'on appelle travail et pas travail, etc. Moi, j'aimerais bien le redéfinir parce que finalement, essayer de retrouver, ne serait-ce que se renseigner, lire des trucs, discuter, aller dans des forums, et puis se passer le lundi au soleil et puis revendiquer le droit à la paresse, c'est déjà un travail pour moi. C'est déjà important parce qu'on apporte sa pierre à une réflexion collective. Et qu'on a besoin d'avoir une réflexion collective qu'on a pu depuis super longtemps, et c'est pour ça qu'on est dans la merde et qu'on nous bouffe cette putain de réflexion collective par ces espèces de trucs, travail, feignant et tout le bordel. Puis tu peux lire tous les journaux que tu veux, c'est toujours travail, feignant
et tout le bordel.
Et moi, je revendique le lundi au soleil, le RMI en tant que travailleur social.
Bernard, c'est très beau votre histoire là, c'est tentant, on dit c'est formidable, j'ai 18 ans et je vais percevoir 1500 euros. Mais qu'est-ce qui va me pousser à travailler?
Le bonheur de participer au bien commun. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Il y a tellement aujourd'hui de cynisme et de scepticisme par défaut. Par défaut. Lorsqu'on se heurte à un marché du travail sur lequel on n'a pas sa place, etc., évidemment qu'on peut devenir cynique ou opportuniste. Mais à partir du moment où on est confirmé, au contraire, en permanence, dans la capacité à produire de la valeur économique, je considère au contraire, et je vois tellement par différence combien nous sous-utilisons, nous sous-employons beaucoup trop de jeunes, je considère au contraire que nous allons faire exploser le travail. Nous allons, mais à condition qu'on ne donne pas au mot « travail » le sens négatif que le capitalisme lui donne. Quant aux travaux pénibles, aux travaux qui ne trouveraient pas preneur dès lors que chacun a un salaire, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, attention à l'ethnocentrisme.
Oui, quand vous dites le bonheur, vous allez trouver des jeunes de 18 ans qui vont dire « Oh, mon bonheur à moi, c'est de balayer, c'est les rues, c'est de ramasser les poubelles, c'est de faire le sale boulot ».
Non, mais enfin, la plupart sont dans les études et ils ont du bonheur à être dans les études et à être reconnus comme tels pour ce travail qu'ils font de coproduction du savoir avec les profs à l'université. Ça, c'est le cas de la majorité des jeunes. Alors maintenant, trouver des gens pour comme éboueurs. Ben écoutez, c'est ce que je disais, attention à l'ethnocentrisme petit bourgeois. Les enquêtes montrent que les éboueurs, les ripeurs, aiment leur travail. Même sans connaître la statistique sur le fait que notre espérance de vie diminuerait davantage si on supprimait le ramassage des ordures que si on fermait les hôpitaux. Ils ne connaissent pas la statistique peut-être, mais ils ont quand même une claire conscience de l'énorme utilité de ce qu'ils font. Et donc, ils trouvent très digne leur travail. Ce qu'ils apprécient moins, c'est les horaires, le salaire, c'est-à-dire l'emploi. Mais ne sous-estimons pas l'intérêt, y compris pour des travaux que nous considérerions comme peu exaltants. Mais deuxièmement, s'il y en a qui altèrent la santé, par exemple, ben ça, il faudra les supprimer. Ou alors, s'ils altèrent la santé sur le long terme, comme par exemple le travail de nuit, bien, s'il est nécessaire que certains de nos travaux de nuit se fassent, ce qui est tout à fait évident, il faudra du turnover. S'il y a des tâches qui ne trouvent, sans être
Et une meilleure rémunération ?
Non, parce que la rémunération dépend de la qualification. Alors, dans la qualification, remarquez, effectivement, on peut avoir, comme actuellement dans la qualification des postes, la pénibilité. Oui, bien sûr, ça peut faire partie. Mais ce que je voulais dire, c'est que, également, pour des travaux qui ne trouveraient pas preneur, ben, nous ferons du service civique. Et que nous assumerons. Pourquoi ? Parce que l'économie sera plus il, ce sera plus les autres, ce sera nous. Et que nous allons faire de l'éducation économique, tout comme nous faisons de l'éducation civique pour l'élection. La comparaison que j'ai faite entre le fait de postuler que nous sommes tous capables de participer à la délibération politique et le fait de postuler que nous sommes tous capables de participer à la création de valeurs économiques me pousse, encore une fois, à dire que nous allons assumer comme notre affaire l'économie et que donc certains travaux qui ne trouveraient pas preneur feront l'objet d'un service civique.
Bernard Friot, je reviens à mes 18 ans. J'ai 18 ans, je vais percevoir 1500 euros. Là, vous êtes en train de nous décrire le salaire universel.
Je décris le salaire universel dans une de ses dimensions, c'est-à-dire le salaire pour tous. Je n'ai pas encore parlé du salaire pour tout. Parce que universel, c'est pour tous, c'est-à-dire le salaire qui, financé par une mutualisation des valeurs ajoutées, fait que les entreprises vont faire pour le salaire direct ce qu'elles font déjà pour la santé et la vieillesse. Cotiser et ne plus avoir à payer les personnes auxquelles elles ont affaire. Elles cotisent, elles n'ont plus à payer leurs pensionnés, elles cotisent, elles n'ont pas à payer leurs malades, elles cotiseront, elles n'auront pas à payer les salariés, qui du coup ne seront plus leurs salariés. Encore une fois, tout ça est cohérent. Nous avons une affirmation de la dignité des personnes à travers la qualification personnelle, du coup on n'est plus dépendant d'un employeur. Maintenant, ça c'est le salaire pour tous, effectivement, puisque chacun a un salaire à vie qui progresse et... Par ailleurs, le salaire pour tout, oui, s'il y a salaire universel, c'est-à-dire que nous allons transposer au financement de l'investissement ce que nous prouvons avec la cotisation. La cotisation, elle nous aide à sortir du marché du travail, elle nous aide aussi à sortir du marché des capitaux. Les deux chantages auxquels nous sommes soumis aujourd'hui, le chantage à l'emploi et le chantage à la dette, nous pouvons nous en débarrasser. On peut supprimer les maîtres chanteurs.
Pour l'investissement, je ne comprends pas.
On va supprimer la propriété lucrative... Elle a remplacé par une cotisation. Mais c'est ce que nous faisons. Encore une fois, ce que je propose là, c'est la prolongation de l'existant. Comment est-ce que nous finançons la santé, par exemple ? Comparons avec les USA. Aux USA, on en est resté à une situation qui était la situation habituelle jusqu'à l'invention de la sécurité sociale dans les années 30, 40, 50. C'est, vous avez des compagnies d'assurance, donc des institutions qui prélèvent de la valeur sur le travail d'autrui, à travers le rendement de portefeuilles financiers. Vous avez des portefeuilles financiers, donc, qui financent la santé. Aux USA, on n'a pas supprimé la propriété lucrative pour financer la santé. On passe toujours par le marché des capitaux pour financer la santé. Moyennant quoi, pour un système de santé qui n'est pas meilleur que le nôtre, hein, il n'est pas pire non plus, il ne faut pas en faire une description qui serait inutilement apocalyptique, mais pour un système de santé qui n'est pas meilleur que le nôtre, il dépense 15% du PIB pour la santé, alors que nous, c'est en moyenne en Europe, c'est 10%. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé, en 1945, pour la France, à peu près à la même époque pour d'autres pays, de nous débarrasser du marché des capitaux pour financer la santé. On a fait une cotisation qui ponctionne 10% sur le PIB et qui finance la santé. Pourquoi est-ce que...
On ne se débarrasserait pas de ces parasites pour le reste.
Mais bien sûr, on le fait aussi pour la retraite. La seule façon, en dehors de la solidarité familiale qui jouait pour le meilleur et pour le pire, et qui continue à jouer dans les sociétés où il n'y a pas de sécurité sociale, comment est-ce qu'on pouvait assurer ces vieux jours par du patrimoine ? Alors on vendait son fonds de commerce, etc., etc. On s'est débarrassé de la logique de la propriété lucrative pour financer les pensions. Et ça marche. Ce sont les pays d'Europe, la statistique elle est vraiment éloquente, ce sont les pays d'Europe qui financent sans épargne les pensions qui ont le meilleur taux de remplacement, ce qu'on appelle le rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net, et qui ont le plus fort pourcentage de retraités parmi les plus de 60 ans. Il n'y a pas photo, là. C'est parce qu'il n'y a pas d'accumulation financière, parce que nous ponctionnons directement sur la valeur ajoutée une cotisation qui va à une caisse qui distribue les pensions, que ça marche. Pourquoi continuer à passer par des parasites qui, en plus, ne prêtent pas, hein ? Ils sont dans l'impasse aujourd'hui, absolue, où ils ne prêtent qu'à des taux absolument rédhibitoires, ils nous prennent en tenaille, ils nous prennent sous le... Enfin, je n'insiste pas sur l'énormité, le caractère inadmissible, illégitime de la ponction de la dette sur nos vies individuelles et collectives. Écoutez, finissons-en. Nous allons consacrer 30% du PIB à l'investissement, ce sera plus qu'aujourd'hui. On le fera directement par une cotisation économique sur le modèle de la cotisation sociale.
1, 2... 3. C'est diablement bien fait. J'aurais jamais dit que c'était aussi chiadé. Je ne me croyais pas aussi semblable. Diable. Mais il faudra bien que je m'y fasse. Un de ces quatre à la lutte des classes. Fichtre, c'est bigrement boutiqué comme un massacre à l'économe. Je ne me croyais pas aussi friable, diable. Mais il faudra bien que je m'y fasse un de ces quatre à la lutte des classes. Merde, nos rangs sont assez dépareillés, nos généraux soudoyés. J'ai jamais vu d'armée aussi minable, diable. Mais pourra-t-on toujours faire l'impasse, mine de rien, sur la lutte des classes?
Continue avec Bernard Friot, l'enjeu du salaire.
de son dernier bouquin qui sort aux éditions de La Dispute, les auditeurs sont en train de se dire « Bon, on a compris, là-bas, si j'y suis, c'est une fois des gens qui viennent nous expliquer comment finir avec le conflit israélo-palestinien en créant un État commun. » Et là, aujourd'hui, c'est un autre utopiste, Bernard Friot, qui vient nous dire qu'on peut mutualiser la richesse et qu'on peut très bien sortir au fond de l'exploitation. Mais je suis sûr que ce qui court dans les têtes depuis le début de cet entretien, Bernard, c'est oui, mais le chômage là-dedans. Parce que c'est la préoccupation. Numéro un, on voit bien que avec la proximité de ces élections présidentielles, le souci numéro un, ce qui revient en permanence dans les esprits, dans les débats, en dépit de toutes les tentatives des uns et des autres de mettre des thèmes en avant, on voit bien que la préoccupation principale, c'est le chômage, c'est la précarité dans l'emploi, c'est le chômage chez les jeunes, etc. Quel lien vous faites entre cette préoccupation et votre projet ?
Parlons de la situation absolument inadmissible qui a été faite aux jeunes depuis le plan Barre, depuis 1977, où on a inventé des mesures spécifiques qui ont écrasé le salaire d'embauche, puisque pour qu'on retrouve aujourd'hui le salaire correspondant à 25 ans, à 75, 1975, celui qui était en 75, il faudrait le doubler. Donc nous avons écrasé le salaire d'embauche par des mesures spécifiques prétendument pour sauver l'emploi des jeunes. Nous avons une sous-utilisation de la jeunesse. Enfin, nous avons des gens qualifiés qui maquillent leurs diplômes pour décrocher des jobs, qui sont dans la galère. Mais nous allons, en leur attribuant un salaire à 1500 euros à 18 ans, mais qui pourra encore une fois progresser avec les épreuves de qualification, nous allons faire exploser le travail. Tous ces jeunes qui aujourd'hui sont sous-utilisés, et je pense singulièrement à tel ou tel, mais on peut penser à tellement d'autres, nous allons au contraire leur offrir la possibilité de faire enfin ce qu'ils sont capables de faire. Donc, supprimer le chômage, ça suppose deux choses. Un, supprimer le marché du travail. Si chacun a un salaire à vie, il ne passe plus jamais par la case chômage. Certes, il peut être licencié de son collectif de travail parce qu'on estime qu'il ne fait pas l'affaire. Mais il part avec son salaire, avec sa qualification, puisqu'elle lui est attachée à lui. Il n'y a pas cette négation de la personne qui est aujourd'hui le chômage, qui est quelque chose d'absolument scandaleux. Donc, supprimer le chômage, c'est supprimer le marché du travail, c'est attribuer un salaire à vie à tous. Et puis c'est aussi, parce que un salaire à vie, encore faut-il le générer par de la production de valeur économique, mais c'est libérer le travail en confortant la qualification des personnes. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le marché du travail ? Qu'est-ce que c'est que le rapport au travail ? C'est la suspicion permanente. Est-ce qu'on est vraiment digne d'être dans l'emploi où on est ? Est-ce que tu as vraiment amélioré ton employabilité ? Nous sommes en permanence suspectés de ne pas être à la hauteur de ce que nous faisons. Nous sommes, pour au moins 10% d'entre nous, niés, purement et simplement, dans la production de valeur économique, au chômage, comme on dit. Il faut inverser la vapeur. Conforter les personnes, au contraire. C'est ça qui va démultiplier l'initiative. Comme on l'observe d'ailleurs dans des lieux où la propriété lucrative n'est pas encore vraiment totalement affermie. Prenez tout l'Internet et tout ce qui se joue autour d'Adopi, des prétendus droits de propriété intellectuelle. Bref, le couvercle sur la marmite que les capitaux tentent d'imposer sur un lieu où nous sommes dans la coopération, dans l'initiative permanente, autour des logiciels libres, etc., etc. Nous avons là un bon exemple de ce que le capitalisme fait quand il arrive quelque part. C'est une agression contre le travail.
Et donc une réduction du volume général de travail.
Absolument. Le capitalisme génère la
pénurie.
La pénurie.
Bernard Friot. Je pense par exemple à un penseur comme André Gorz, par exemple, qui disait « Le volume général de travail va en réduisant, le travail ne reviendra pas complètement. » Qu'est-ce que vous pensez des tentatives des 35 heures, de la réduction, du partage, etc., du travail ? Ça vous semble un accommodement
de ce que le capitalisme fait au travail.
Ben, c'est quelque chose qui, proposer de réduire la durée du travail, c'est s'inscrire toujours dans la logique de l'emploi. Hein. Et donc, on va multiplier leur hors-emploi à côté de l'emploi. Si on supprime l'emploi, si chacun est qualifié et payé à vie à sa qualification, la distinction entre le temps de travail et le hors-travail, qui aujourd'hui est la distinction nécessaire parce qu'il y a emploi et qu'il s'agit de libérer une partie de notre existence de l'emploi, n'a plus grand sens. Moi, je suis retraité, je suis tout le temps au travail. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais du lien social, je ne suis pas dans la production de marchandises. C'est ça d'ailleurs la libération que fait pour les retraités, le fait d'entrer enfin, trop tard, à 60 ans c'est bien trop tard, dans un salaire à vie. Ils n'ont plus à passer par les fourches caudines du marché du travail. Enfin, ils peuvent exprimer ce qu'ils sont, y compris quand ils sont avec leurs petits-enfants, quand ils cultivent leurs tomates, etc. Ça devient du travail. Vous voyez, le travail, c'est une convention sociale. Dans le capitalisme, n'est travail que ce qu'une force de travail, et j'ai dit tout le mal que je pense de la force de travail, fait sous le joug de la dictature du temps, ce qu'on appelle la valeur travail. La valeur travail, ce n'est pas la valeur anthropologique du travail concret, comme on le pense souvent. La valeur travail, c'est le fait de mesurer la valeur des choses par le temps de travail nécessaire. Ça, c'est une institution capitaliste dont il faut qu'on se débarrasse. Pour produire des marchandises, ça, c'est ce qu'on appelle travail dans le capitalisme. Mais heureusement, nous avons, dans le capitalisme même, dans le conflit autour du salaire, avec la qualification et la cotisation, inventé des institutions qui contestent formellement cette définition-là du travail et qui disent que des fonctionnaires travaillent alors même qu'ils ne sont pas du tout dans la logique du marché du travail et de la marchandise, que des retraités travaillent, que des parents avec les allocations familiales travaillent. Nous avons déjà sorti le travail de son carcan capitaliste. Il faut aller plus loin.
Mais alors, votre idée a une histoire. Vous ne tombez pas de la lune, là. Hein, cette histoire de la qualification, cette histoire de jouer sur les cotisations, cette histoire du salaire constant, quelle que soit l'activité, tout ça, qui semble effectivement une utopie, a une histoire bien concrète. Alors, vous ne sortez pas de n'importe où.
Ça n'est pas une utopie, hein, encore une fois. C'est la proposition de faire ce qu'a fait le CNR.
Le Conseil national de la Résistance.
Le Conseil national de la Résistance, il ne part pas de rien. Si vous prenez, par exemple, la création de la Sécurité sociale entre janvier et juin 1946, lorsque Ambroise Croizat, ministre communiste, la CGT, se mobilise pour créer l'institution. Vous avez eu l'ordonnance de 45, d'accord, mais ça c'était sur le papier, il faut ensuite créer la chose. Ça se fait au premier semestre 46, sans De Gaulle et contre lui, je dis ça par parenthèse parce que quand on dit que De Gaulle est le père de la Sécu, ça me fait bien rigoler. Il a démissionné le 3 janvier 46, il est absolument contre ce qui se met en place, sans la CFTC, puisque la CFTC est contre les ordonnances de 45, rappelons-le aussi, c'est les communistes et la CGT qui se mobilisent. Et qu'est-ce qu'ils font ? Quand on regarde les salariés et les administrateurs des caisses de sécurité sociale de 45, je ne parle pas de 47, il y aura des élections, ça changera. C'est les salariés et les administrateurs des caisses d'assurance sociale de 1930. Le CNR, il a su lire ce qu'il y avait de subversif dans les assurances sociales de 1930 et il les a poussés plus loin dans la sécurité sociale, mais à partir de l'institution qui existait. L'acte politique qui a été posé, c'est, entre autres, le fait de doubler le taux de cotisation. On était à 16%, on passe à 32% du salaire brut. Voilà un acte politique majeur, mais sur la base d'un déjà-là, vu comme subversif, et poussé plus loin. Donc, mon histoire, c'est celle de ce déjà-là. C'est l'histoire ouvrière. Si vous voulez, nous devons nous réconcilier avec notre histoire ouvrière. Pour le moment, nous la vivons sur le mode de la nostalgie. Je ne parle pas de la haine de la droite, etc. Non, je parle pour les gens de gauche et de gauche de gauche. Nous sommes sur la nostalgie. Et non, il s'agit de redonner toute leur vitalité à ces institutions qui ont été conquises, la qualification du poste. Combien de gens se sont mobilisés pour que les conventions collectives soient vivantes? Le statut des fonctionnaires, il y a eu 50 ans de bagarre. La retraite, quelle bagarre pour avoir la retraite au niveau où nous l'avons. Il s'agit de nous réconcilier avec cette histoire.
M. Ambroise Croizat, ministre du Travail, a donné ce matin dans les salons de son ministère, rue de Grenelle, une conférence de presse.
Radiodiffusion française.
Nous sommes venus le trouver ensuite dans son bureau.
2 janvier 1946.
Pour lui demander de préciser pour vous, chers auditeurs, les problèmes qui relèvent plus particulièrement de la compétence de son département ministériel.
Ambroise Croizat.
Le 1er juillet 1946, commenceront à fonctionner les nouvelles caisses de sécurité sociale et les nouvelles caisses d'allocation familiale. C'est au 1er janvier 1947 que les caisses de sécurité sociale assumeront la charge de l'assurance contre les accidents du travail. Aussi, dès le début de 1946, les assurés sociaux verront leur situation considérablement améliorée. Le nouveau régime d'assurance maladie les couvrira à peu près intégralement contre toutes les charges résultant des dépenses médicales et pharmaceutiques. Et les assurés âgés vont bénéficier de retraites suffisantes pour assurer la sécurité de leurs vieux jours.
Alors, Bernard Friot, c'est le moment, on est en période électorale, il y a quand même un certain remue-ménage, en ce moment insuffisant, mais enfin on voit bien qu'il y a une demande, une aspiration des uns et des autres, pas seulement de nos auditeurs, hein, à piger, à comprendre, à vouloir des projets, à vouloir profiter un peu de cette occasion pour essayer de penser un peu autrement, même si la façon dont ces élections se sont mises en scène est assez dissuasive de ce côté-là. Mais enfin, il y a indéniablement une certaine exubérance, disons, hein, des idées en ce moment. Est-ce que votre projet intéresse les candidats ?
Alors écoutez, moi je me réjouis énormément de cette exubérance. Enfin, 23 000 au meeting de Mélenchon à Lille, c'est du jamais vu. 120 000 à la Bastille, c'est du jamais vu. Enfin, c'est un phénomène absolument nouveau. On s'était quand même habitué à une forme de déclin, hein, et d'où ce déclin électoral, d'où ce rapport nostalgique à la classe ouvrière. On est en train de s'apercevoir que nous pouvons, au contraire, assumer cette histoire dans une dynamique formidable. Alors, est-ce que ce que je dis sur la fin du marché du travail, à travers le salaire à vie, à la qualification pour tous, sur la fin du marché des capitaux, à travers la cotisation économique, est-ce que c'est repris par le Front de Gauche, par exemple, ou par des candidats de la gauche de gauche comme Poutou ou la candidate de Lutte ouvrière ? Non, pour le moment, non. Mais c'est dans cette dynamique-là que j'inscris tous les débats, toute l'activité de Réseau Salariat, cette association d'éducation populaire qui essaye de produire des outils pédagogiques et de proposer des formations pour répondre à cette aspiration. Il y a vraiment une aspiration aujourd'hui que j'ai pu constater dans les débats auxquels j'ai été. Mais oui, j'ai eu l'honneur vraiment de faire un tour de France magnifique à l'invitation de tous les collectifs contre la réforme, etc. Il y a une aspiration à ne plus se faire flouer. Il y en a marre. Et donc, mais qui est positive, c'est-à-dire se former.
Alors comment ça marche justement ce réseau salariat ? On va finir là-dessus, Bernard. C'est Bernard Friot le réseau ou...
Ah non, non, réseau salariat, c'est un ensemble. Il a été constitué à partir de ceux qui m'ont invité. Donc c'est un ensemble de syndicalistes et d'associatifs et de politiques. Vous voyez bien la mouvance globalement, hein, c'est-à-dire Amis du Pont Diplomatique, Attaque, Front de Gauche, NPA, CNT, Alternatives Divers et Variés, CGT, FSU, Solidaires, voilà à peu près la cette mouvance de gens qui prennent l'initiative, alors sur un site, réseau-salariat.info, qui démarre. Il ne faut pas non plus attendre de nous ce qu'on n'a pas encore pu faire. Hein. Mais et je lance là, merci de me donner l'occasion de le faire, un appel à tous ceux qui voudront nous rejoindre pour produire des outils pédagogiques. Parce que les livres, c'est bien, mais il faut aussi un accès aux livres. Et c'est sûr que des vidéos pour lancer des débats, des diaporamas pour faire des cours suivis, des émissions de radio, enfin, etc. Tout cela est extrêmement utile et il faut que nous les créions. Et puis, organiser des formations. Pas simplement des conférences, qui sont très utiles aussi, hein, pour remuer un peu nos idées reçues souvent. Mais aussi des formations pour systématiser tout cela.
«
C'était l'enjeu des salaires, un entretien de Daniel Mermet avec Bernard Friot, réalisé à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, l'enjeu des salaires aux éditions La Dispute. Bernard Friot coordonne également l'Institut européen du salariat et l'association d'éducation populaire Réseau Salariat, que vous pouvez découvrir sur le site internet réseau-salariat.info. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique, Patrick Henry et Sophie Moreno, réalisation Franck Adhérer et Bertrand Chaumeton, assistante Marina Touillez, chef du répondeur Grégory Salomonovitch, qui attend vos messages au 01 56 40 37 37.
La première fois qu'on lui a proposé le badge télépéage Vinci Autoroute, Vincent a dit « Ah, ça non, très peu pour moi, je n'aime pas m'engager et puis je ne prends pas l'autoroute assez régulièrement. » Ce à quoi on lui a répondu « Avec le badge Vinci Autoroute et la formule temps libre, c'est sans engagement et les mois où vous ne roulez pas, eh bien vous ne payez pas. Et quand vous payez, eh bien le paiement est différé jusqu'à 45 jours. » Alors Vincent a eu cette phrase historique, il a dit « Bah, si c'est comme ça, je veux bien. »
Vinci Autoroute, roulons autrement.
Disponible en espace client ou sur vinciautoroute.com.
Écoutons un sociétaire de la Maïf nous parler de l'assurance d'essai RassureCap Solutions.
Remarié à 40 ans, un nouveau papa à 46 ans, c'était pas prévu. Alors j'ai voulu que toute la famille soit à l'abri. Du coup, à la naissance de Paul, j'ai augmenté le capital de mon assurance d'essai.
Avec le contrat RassureCap Solutions, vous pouvez augmenter votre capital de 5000 euros en cas d'événement familial comme une naissance, jusqu'à 4 fois pendant la durée du contrat, et ce, sans nouvelle formalité médicale. Maïf, assureur militant. Le contrat RassureCap Solutions est conçu et géré par Parnas Maïf, filiale assurance vie de la Maïf.
France Inter présente Kerry James.
On n'est pas condamné à l'échec.
En concert acoustique au Théâtre des Bouffes du Nord.
Banlieusard est fier de l'être.
À l'occasion de ses 20 ans de carrière, Kerry James revisitera les plus grands titres de son répertoire dans une formation acoustique lors de 15 représentations à 19h du 10 au 28 avril.
Si la plupart des jeunes tournent mal, c'est qu'ils ne savent plus la différence entre le bien et le mal.
Retrouvez Kerry James du 10 au 28 avril au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris et sur franceinter.fr.
Après le journal Frédéric Lodéon, vous écoutez France Inter, il est tout pile 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Le sommet de la CEDEAO, les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, s'est ouvert cet après-midi à Dakar, au Sénégal, juste après en fait la prestation de serment de Macky Sall, le nouveau président sénégalais. Pendant 4 jours, ils vont discuter de la crise au Mali, 10 jours après le putsch militaire. Ils réclament un retour à l'ordre constitutionnel sous peine d'embargo diplomatique et financier. La junte a promis hier, elle, le retour à un pouvoir civil. Dans le même temps, les rebelles Touareg ont, eux, lancé une offensive dans le nord du pays. De son côté, la France conseille aujourd'hui à ses ressortissants dont la présence n'est pas indispensable de quitter le pays provisoirement. 5000 Français résident actuellement au Mali. Les forces syriennes poursuivent aujourd'hui leur bombardement sur la ville de Homs, et ce malgré la promesse de Bachar el-Assad à Kofi Annan de faire taire les blindés. Kofi Annan qui justement doit intervenir cet après-midi devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour livrer son évaluation des progrès de sa mission en Syrie. De son côté, le chef du comité international de la Croix-Rouge est lui attendu aujourd'hui à Damas, Jacob Kellenberger. Il vient pour 2 jours. Il doit rencontrer plusieurs ministres pour discuter de l'extension de l'aide humanitaire, de la trêve et des visites des détenus. Total a fait les comptes. Les réparations de la fuite de gaz sur la plateforme en mer du Nord coûteront 1 million de dollars par jour. Elle pourrait d'ailleurs prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, suivant les scénarios envisagés. Boucher le puits avec de la boue de forage ou construire un puits de secours. En France, la garde à vue de 16 des 17 islamistes radicaux interpellés vendredi en France a été prolongée aujourd'hui. Le chef du groupe radical salafiste Forsan Alidza et 2 autres personnes ont été transférées ce matin à Paris pour être présenté à des juges antiterroristes. Un policier a été blessé aujourd'hui lors d'une interpellation à Bayonne, blessé par un coup de sabre. Le policier a répliqué avec son arme de poing. La vie des 2 hommes n'est pas en danger. La personne interpellée, elle, était recherchée pour avoir agressé un médecin vendredi dernier. Dans les échos de la campagne présidentielle, François Hollande dénonce cet après-midi la politique de Nicolas Sarkozy vis-à-vis des Roms. Dans une lettre adressée à Rome Europe, le candidat socialiste juge le président candidat responsable de la précarité intolérable, selon lui, dans laquelle se trouvent ses familles. La mise en sécurité et la modernisation du parc d'ascenseurs français a coûté près de 5 milliards d'euros aux propriétaires depuis 2003. Elle a permis, selon la Fédération des ascenseurs qui livre ces chiffres aujourd'hui, elle a permis de réduire de moitié les accidents d'usagers ces 4 dernières années. Le nombre d'entreprises françaises qui font du mécénat augmente, mais le budget global, lui, se tasse. C'est ce qu'il ressort d'une enquête réalisée tous les deux ans sur le sujet. Environ 40 000 entreprises ont des activités de mécénat. Elles étaient 35 000 en 2010. Le mécénat est estimé à un peu moins de 2 milliards d'euros pour cette année. C'était à peine plus il y a deux ans. Avec la crise, en fait, les entreprises privilégient un mécénat plus ciblé, plus centré, par exemple, sur le domaine social que culturel. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Carmen Maria Vega, Kabadzi, et Dionysos. Pour assister à l'enregistrement de l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
C'est à vous Frédéric Ledéon. Bon carrefour.
Merci Laetitia.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Philippe Jordan. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors pour nos amis suisses, c'est Philippe Jordan, vous savez bien, mais il nous a autorisé à le dire.
Suisse allemand.
Voilà, ouais. Ouais, parce qu'il parle, ouais. Vous connaissez bien sous le nom de Jordan, mais c'est Jordan. Nous en France, vous nous avez dit oui l'autre fois, on a le droit de le dire comme ça.
Hein. Voilà, c'est à vous de choisir.
C'est ouais, on va dire Jordan parce qu'on connaissait votre papa aussi, on l'appelait Armin.
Exactement.
Jordan,
voilà. Ouais.
Et puis on est très heureux parce que vous êtes un chef d'énorme talent, un personnage sympathique, direct. Voilà. On n'a pas envie de vous dire maestro, de s'agenouiller devant
oh
vous.
Non,
parce
que ça s'est dépassé.
Vous êtes un garçon moderne et puis alors admiré de tous les mélomanes, puisque, je ne sais pas, même le très sévère critique du Canard Enchaîné, qui écrit des articles quelquefois assez durs. En fait, il se cache sous un pseudonyme, c'est Luc Dessigne, mais on sait que c'est un écrivain très talentueux. Eh bien, il vous adore. Chaque fois que je vois une critique de lui, et je crois beaucoup en ce qu'il dit, eh bien, il est sous votre charme, il est aux anges quand il vous entend diriger. Alors voilà. Philippe, moi, arrêtons les compliments maintenant, mais vous méritez parce que vous avez une carrière tout à fait superbe. Vous êtes évidemment le directeur musical de l'Opéra National de Paris. Vous avez signé avec l'Orchestre Symphonique de Vienne à partir de la saison 2014-2015. Et vous m'avez confié, j'ai le droit de dire, je trahis un petit peu, mais avec amitié, que vous avez tellement travaillé auparavant, vous avez un calendrier gigantesque que je vais peut-être citer en partie d'ailleurs, mais que vous êtes content maintenant d'avoir deux maisons principales finalement, l'Opéra de Paris et puis d'aller à Vienne. Et comme ça, vous aurez... un échange entre deux domiciles, mais deux institutions musicales formidables, l'Opéra de Paris et puis les Wiener Symphoniker, et deux villes superbes aussi. Parce qu'avant, vous étiez toujours sur les routes, c'est ça?
Tout à fait, ça fait 10 ans maintenant que je suis partout, chef invité. J'étais avec tous les grands orchestres et opéra, ce qui est génial, parce que c'était une expérience géniale de faire l'expérience, de voir comment marche le Met ou les Berliner Philharmoniker. J'ai beaucoup appris et c'était important d'apprendre. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise comme chef avec mon propre instrument. C'est comme le violoncelle. Hein. Si on a son violoncelle, c'est autre chose.
Sinon,
si on
s'habitue à chaque fois, bien sûr.
En plus, un orchestre qui est un instrument vivant, avec sa propre psychologie en plus, et ses propres psychodynamismes et son propre son. C'est, au long terme, c'est beaucoup plus bienfaisant si on peut déjà programmer sur le long terme, et puis travailler sur le long terme, ça fait du bien. Alors d'abord d'avoir son instrument professionnel, mais aussi du côté privé, de retourner après une répétition dans son propre lit, dans son propre appartement, ça fait quand même du bien. Bon, je suis ravi ici parce que je suis chef lyrique. Mon premier métier, c'est quand même chef d'opéra, et je me sens bien ici. Mais bien sûr, il me manquait toujours un peu le côté symphonique, et je suis ravi d'avoir
avoir maintenant aussi un pendant symphonique et aussi parce que c'est à Vienne aussi un orchestre d'une autre culture, d'avoir la culture française ici, mais de vivre la culture latine, mais aussi la culture autrichienne, germanique. C'est un bon équilibre. Je suis ravi de
voilà, comme de partager ça, ici, on vous appelle Jordan et là-bas, vous appelle Jordan. Comme ça,
voilà, on retourne au sujet.
Et quand même, vous avez aussi travaillé avec d'autres orchestres, puisqu'on est à France Inter. On est très fiers que vous ayez dirigé l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec un pianiste qu'on adore aussi, qui est tout à fait sympathique et qui a fait beaucoup de recherches autour de Beethoven avec vous. Il a analysé les partitions. C'est François-Frédéric Guy. Vous voici tous les deux.
Oui,
vous l'aimez bien aussi.
Ah oui, c'était une rencontre extraordinaire parce que, vous le savez bien, Frédéric, c'est un chef et un soliste dans le symphonique. Quand est-ce qu'on travaille ensemble? Il y a un petit raccord, puis il y a une répétition avec l'orchestre, et puis à la générale, et voilà.
Ça se voit très peu quand on joue un concerto.
Nous qui travaillons à l'opéra avec les chanteurs, normalement, ça fait 6 semaines qu'on travaille dans le rôle et qu'on discute sur tout, et ça ne se fait pas dans le symphonique normalement. Alors il y a soit la complicité qui s'installe, je trouve assez rarement, ou on l'accompagne,
le soliste, on se dit bonjour, bonsoir, et puis c'est tout.
Exactement, ou on se bat, ce qui n'est pas bien non plus. Hein,
c'est rare,
heureusement, mais trouver la... Mais quelquefois, c'est mieux, quelquefois, si on se bat, je trouve, si on fait de la musique à côté.
Hein, à côté l'un de l'autre,
le soliste fait son instrument, et nous, on fait l'accompagnement, et voilà. Et
comme dans les ménages, dans les couples, il vaut mieux discuter, une bonne dispute vaut mieux que de bouder.
Absolument, et je préfère ça. Et avec François-Frédéric, c'était du tout début, il y avait cette complicité. Bon, on a eu la chance parce qu'il y avait le disque qu'on faisait. Alors là, il y avait déjà quelque chose de plus sérieux que juste un concert. Et pas n'importe quel disque, c'était les 5 concertos pour piano de Beethoven. Alors c'est vraiment le sommet de la littérature pour piano et orchestre. Et c'est vraiment là, c'est pas seulement accompagner un pianiste, c'est vraiment un échange entre un chef qui vient du symphonique de Beethoven et un soliste qui vient des 32 sonates.